Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, Olivier Figueras au micro, et malheureusement je ne suis pas en direct, c'est les petits désavantages de l'été où il faut que nous circulions. Moi, l'été est très occupé par un certain nombre de conférences, d'universités d'été, et les dates fixes de Radio Courtoisie ne sont pas toujours compatibles, et donc je préenregistre aujourd'hui, en ce tout début mois de juillet, je préenregistre cette émission que vous entendrez un peu plus tard. Je n'ai pas, pour les mêmes raisons d'occupations diverses, je n'ai pas Jeanne Smith à mes côtés comme c'est l'accoutumée, donc vous serez contraints de n'entendre que ma voix du côté des intervieweurs. Et nous recevons, ou je reçois, parce que je n'ose pas employer un pluriel de majesté, je reçois donc aujourd'hui, le jour où j'enregistre et aujourd'hui, le jour où vous écoutez, je reçois Guillaume Bernard pour le dernier livre qu'il vient de produire. Nous allons en parler. Bonjour Guillaume.
Bonjour Olivier, merci infiniment de cette invitation et merci d'accepter que je sois moi aussi à distance parce que, comme vous le dites, on a des obligations professionnelles et militantes qui peuvent être des contraintes relativement lourdes.
C'est le cas, oui, effectivement. Alors, je précise tout de suite, chers amis auditeurs, que bien que nous ne soyons pas en direct et donc que vous ne pouvez pas poser vos questions comme vous le faites à l'accoutumée et parfois assez nombreux, n'hésitez jamais à m'envoyer un email quand vous aurez entendu cette émission. Si vous avez des questions, je fais en sorte, dans la mesure de mes capacités, d'y répondre quand je les reçois. Alors aujourd'hui, Guillaume Bernard, je ne sais pas s'il est utile de vous présenter, je pense qu'à peu près la France entière maintenant sait qui vous êtes.
N'exagérons pas quand même.
Bon, enfin, la France qui compte sait qui vous êtes. Je vous reçois pour le dernier livre que vous avez publié, et qui est donc le thème de cette émission, émission que j'ai intitulée « Jeanne d'Arc, sainte de l'Église ou héroïne de la patrie ?» parce que vous venez de commettre, c'est le terme qu'il faut employer, même si on emploie généralement commettre en plus mauvaise part, un petit ouvrage dans la collection Focus des éditions de l'Homme Nouveau qui s'intitule « Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine ». C'est un petit ouvrage que j'ai quasiment dévoré, je dis quasiment parce que je ne suis pas arrivé tout à fait à la fin avant l'émission, que j'ai quasiment dévoré avec une avidité croissante. Et c'est un genre qui est un peu mal aimé ces derniers temps. C'est un dialogue, un peu plus qu'un dialogue, parce qu'il y a un peu plus de deux personnages, mais disons qu'il y a deux personnages principaux. Et la première question que je voudrais vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi avoir choisi ce style du dialogue plutôt que de commettre directement un ouvrage sur Jeanne d'Arc?
Ah, c'est une excellente question et je vous remercie infiniment de me permettre d'évoquer cet aspect-là de ma vie et de mes goûts. Vous l'avez dit, hein, j'interviens en règle générale sur Courtoisie en tant qu'historien du droit, en tant qu'analyste de la vie politique, et donc j'écris en règle générale des articles académiques, des articles de presse, des manuels universitaires. C'est ma vie professionnelle, c'est ma vie intellectuelle et je ne la regrette en aucun cas, car je suis vraiment très heureux d'enseigner l'histoire du droit, l'histoire des idées politiques. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment le goût de la littérature. J'ai jugé à cette époque-là que je n'étais pas en capacité de produire des choses de qualité suffisante pour pouvoir me lancer dans une carrière de littérateur ou de romancier. Et donc, j'ai toujours gardé cette envie d'écrire des ouvrages plus littéraires. Il s'est avéré que j'ai fait la rencontre d'un étudiant qui est devenu aujourd'hui un ami, qui eh bien, avait le goût du spectacle, avait le goût du théâtre. Il s'agit de Corentin Stemler. Alors, naturellement, tous mes propos n'engagent que moi, hein, et je ne veux pas que les auditeurs et les téléspectateurs de Courtoisie soient amenés à ne pas aller voir ces spectacles si jamais ce que je peux dire peut leur déplaire. Mais il s'avère qu'on est devenu très amis et que c'est grâce à lui que j'ai renouer avec ce goût de jeunesse, de la littérature, du spectacle. Et on a produit, on a écrit, on a commis, hein, pour reprendre votre terme, en 2021, si je ne m'abuse, une première pièce de théâtre qui s'appelait L'Empereur et les Brigands, et qui était un dialogue entre Napoléon Ier et un personnage fictif qu'on appelle le lecteur, qui peut être interprété comme étant sa conscience ou comme étant, comment dire, le jugement de l'histoire. Et puis, par la suite, j'ai continué, soit en parallèle avec Corentin pour l'écriture d'autres textes, dont certains vont donner lieu à des spectacles dans les mois qui viennent, soit seul, je me suis mis à écrire, ayant eu le pied mis à l'étrier par ce jeune, je me suis mis à écrire un certain nombre de choses personnelles, plus personnelles. Et j'ai sorti en 2023, aux éditions de L'Homme Nouveau, une pièce de théâtre en vers. Alors rassurez-vous, je ne me prends pas pour Racine. Bon, mais disons que la forme m'intéressait, une pièce de théâtre en vers sur la question des mœurs et de l'avortement. Et puis, j'ai participé un jour à ce qu'on appelle à l'ICES, l'université qui m'accueille et dont je n'engage pas l'institution quand je parle, hein, évidemment, je ne parle qu'en mon nom propre. Il y a dans le cadre de l'ICES ce qu'on appelle la nuit de l'histoire, c'est-à-dire qu'on prend un personnage historique et on l'évoque de différentes manières, par la projection de documentaires, par des conférences, par des chants, par des lectures. Et il s'est avéré que lors de cette nuit de l'histoire, il y a 2 ans, le personnage traité était Jeanne d'Arc. Et j'avais donc proposé à l'organisateur de faire un petit dialogue pour traiter une question qu'il m'avait demandé d'aborder, qui était la fameuse loi de 1920 sur le patriotisme, faite donc en l'honneur de Jeanne d'Arc. On va sûrement revenir sur, je dirais, la genèse de cette loi. Et il m'avait demandé de traiter ce sujet et j'ai préféré le faire sous forme d'un dialogue qui aurait opposé, dans le fond, un catholique fervent défenseur de Jeanne d'Arc à un républicain qui ne voit en elle que la fille du peuple et que, éventuellement, l'héroïne du patriotisme. Et c'est sur la base de ce dialogue, qui était relativement court, hein, qui durait une petite demi-heure, que j'ai donc développé tout ce dialogue, toute cette pièce de théâtre, donc, qui est devenue l'ouvrage qui est désormais publié depuis quelques jours et pour lequel vous avez la gentillesse de me recevoir dans votre émission. J'ajouterai un point, et pardon, je sais que je suis un peu long, mais sur Courtoisie, je crois qu'on peut, comment dire, développer sa pensée, hein, ce qui n'est pas le cas dans d'autres médias. J'ajouterai que vous avez eu parfaitement raison, hein, de le dire, le théâtre, lorsqu'il n'est pas monté, hein, lorsqu'il n'est pas représenté, n'a pas forcément bonne presse. C'est vrai que vous, comme moi, on connaît peut-être pas énormément de gens qui aiment lire du théâtre, alors que moi, pour ma part, j'aime lire du théâtre et j'aime avoir lu une pièce de théâtre avant d'en voir une représentation. Mais il faut tout de même pas oublier qu'avant le grand siècle du roman, qui est le 19e siècle, l'art majeur en littérature, c'était justement le théâtre. Si vous regardez les grands auteurs de la langue française du XVIIe siècle, Corneille, Racine, Molière, eh bien, vous avez parmi les plus grands représentants de l'art littéraire, justement des dramaturges. Et puis, dernier élément, je pense qu'on ne peut comprendre véritablement un sujet que si l'on confronte les arguments. Vous savez, c'est dans la méthode dialectique, alors là, je reviens, je remets ma casquette d'enseignant d'histoire des idées politiques, mais dans la méthode dialectique, il y a la confrontation des arguments Et toute la somme théologique, par exemple, est organisée de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est posée par saint Thomas d'Aquin et il essaye de la résoudre par la confrontation des arguments, hein, le pro et le contra, pour essayer de dégager une solution, le dictum. Lorsque l'on regarde les grands maîtres de la philosophie grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ, Socrate, Platon, Aristote, eh bien, on a un certain nombre d'œuvres de Socrate que nous ne connaissons que par Platon, qui a reconstitué des dialogues qui avaient opposé Socrate à un certain nombre de ses adversaires. Et donc, je crois véritablement que le dialogue est fécond, que la confrontation des arguments est quelque chose d'instructif, qui permet d'être parfois plus subtil que si l'on opposait simplement ou que si l'on présentait de manière rationnelle ou supposément rationnelle un certain nombre d'arguments. Donc voilà, voilà pourquoi un dialogue, voilà pourquoi une pièce de théâtre. Un goût personnel, je dirais le fait de devoir à la philosophie classique, qu'elle soit grecque ou qu'elle soit médiévale, eh bien, la méthode dialectique, la confrontation des arguments, et ces deux raisons-là qui m'ont conduit eh bien, travailler depuis quelques années sur des textes littéraires sous forme de dialogue, à côté des ouvrages universitaires ou des articles universitaires que je suis amené à produire et à écrire.
Alors, cher Guillaume, puisque nous en sommes au théâtre, je vais vous poser deux questions coup sur coup, mais vous y répondrez comme il vous semblera bon. La première est plutôt extérieure. Est-ce que cette pièce est destinée à être jouée ou peut-être l'a-t-elle déjà été? Et la deuxième question, ce serait plutôt un set contrat, puisque vous êtes entré dans cette logique. Est-ce que le dialogue, finalement, par un certain ajout de langage, forcément que ce style emprunte, n'est pas parfois un moyen de diluer le sujet et d'éviter de répondre à certaines questions qui se poseraient parce qu'on part dans des considérations qui ne sont pas directement celles qu'on pourrait attendre comme réponse directe si on employait un style plus académique comme ceux qu'on a aujourd'hui.
Alors, à la première question, pour l'instant, cette pièce n'est pas prévue, il n'est pas prévu de la monter, parce que comme vous l'avez dit, il y a deux principaux personnages auxquels se greffent deux autres protagonistes, et puis tout cela est mis dans un contexte général d'une brasserie sur comment dire, sur un boulevard parisien, en
On peut
face.
trouver une brasserie.
Oui, on peut trouver une brasserie pour monter le spectacle, oui. Mais disons que ça représente beaucoup de monde puisque c'est à côté d'un théâtre parisien où se jouent d'ailleurs des pièces de l'époque, parce que j'ai essayé véritablement de reconstituer le décor historique, aussi bien, je dirais, d'un point de vue, comment dire, des lieux que d'un point de vue même de la météorologie. J'ai fait attention de bien situer ma pièce un jour où j'ai pu constater qu'il y avait eu une énorme averse ce qui contribue, je dirais, à l'enjeu dramatique du dialogue. Bon, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que c'est une pièce qui nécessiterait comment dire, un théâtre relativement grand pour un décor relativement grand, accueillant un assez grand nombre de personnages. Et donc, ce sont des coûts que, pour l'instant, personnellement, en tant qu'éventuel producteur ou coproducteur, je ne peux pas assurer. Donc, non, a priori, cette pièce n'est pas destinée, pour l'instant, en tout cas, à être joué, mais il va sans dire que je suis évidemment ouvert à toutes les opportunités. En revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle pièce de théâtre que nous avons coécrite avec Corentin Stemler qui, elle, devrait être jouée dans les mois qui viennent, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Je ne veux pas déflorer la chose. Pour ce qui est pour ce qui est de votre deuxième question, qui est vraiment très importante, tout dépend évidemment de la loyauté intellectuelle de l'auteur. Et j'ose espérer avoir été, comment dire, honnête loyale avec les différentes positions qui sont exposées par les différents protagonistes de ce dialogue. À l'inverse, je dirais, de votre critique, j'aurais presque envie de dire que justement, si l'on est loyal intellectuellement et que l'on se place eh bien alternativement du point de vue des différents personnages, eh bien cela oblige justement à eh bien défendre illustrer les différentes positions de manière loyale, de manière intellectuelle, de manière honnête, de manière voilà, pardon pour la redondance, de manière intellectuellement honnête. C'est-à-dire que pour que le dialogue soit fécond, il va sans dire qu'il faut que il n'y ait pas de position caricaturale de l'un ou de l'autre des personnages, mais que chacun tienne une position qui soit cohérente et qui soit argumentée. Donc, j'aurais envie de vous dire que dans la mesure où l'on est intellectuellement loyal, le dialogue permet justement peut-être plus d'approfondir les positions plutôt que de laisser de côté certaines choses. Alors après, évidemment, il est certain qu'il faut établir des transitions, il faut mettre cela dans un contexte et que cela peut amener évidemment à parfois faire des parenthèses dans le dialogue ou s'éloigner quelque peu du sujet principal, mais pour rendre la description vivante, puisque dans un dialogue, on n'a pas, contrairement au roman, la possibilité de faire des descriptions, et que donc il faut que tout passe par eh bien, les paroles des différents protagonistes, ce qui parfois effectivement oblige à eh bien, s'éloigner un peu du sujet principal pour ensuite mieux y revenir, mais pour avoir donné un peu de chair à cette discussion.
Très bien. Alors, je vais entrer en poursuivant sur ce que vous venez de dire un peu plus dans le vif du sujet. Vous me parlez d'une loyauté vis-à-vis de vos personnages, ce que j'entends bien. Votre titre, pourtant, s'intitule Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine. Est-ce que cela s'adresse à l'un ou à l'autre des protagonistes?
Ah mais ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que si on veut rentrer un peu dans le détail, on a deux principaux protagonistes qui sont un abbé plutôt tendance royaliste et un avocat incontestablement républicain, auquel se greffent deux autres personnages, un officier de marine et un professeur de mathématiques, ces deux personnages étant un peu plus jeunes et frères, eh bien, il est bien évident que chacun des protagonistes de ce dialogue considère que Jeanne, d'une certaine manière, sinon leur appartient, du moins est honoré par leur propre camp, et que par conséquent, le camp adverse, ou même les camps adverses, ne méritent pas Jeanne d'Arc. Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine, sous-entendu, c'est nous qui la défendons au mieux, c'est nous qui en sommes légitimes à en avoir l'héritage. Et c'est effectivement, me semble-t-il, l'un des enjeux qui s'est posé. Alors, disons, à partir de la fin du 19e siècle, on y reviendra si on fait un peu de chronologie de l'histoire de cette loi de 1920, et en tout cas en 1920, c'est une des questions qui se pose. Qui est légitime à honorer Jeanne d'Arc? Est-ce que ce sont les cathos qui, eh bien, ont vu donc le pape, si je ne m'abuse, Benoît XV, ou d'un coup je suis pris d'un doute, eh bien, proclamer la. Proclamer la. Ah non, est-ce que c'est. Oui, c'est Benoît XV, oui. Proclamer la, comment dire, la sainteté de Jeanne, nous sommes en mai 1920, ou est-ce que à l'inverse, ce sont les républicains qui, voulant honorer une héroïne de comment dire, de la patrie, après la Première Guerre mondiale, eh bien, instituent une loi en l'honneur de Jeanne d'Arc, loi en faveur du patriotisme. Chacun des camps revendique Jeanne, et donc c'est à l'encontre des autres que est prononcée d'une certaine manière cette sentence, vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine.
Alors là, vous nous parlez de deux camps. Il y a un instant, vous nous avez dit le camp adverse ou les camps adverses. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nuances dans ces camps qui font qu'il y a plusieurs camps adverses pour chacun?
Oui, absolument. Vous avez raison. Alors, si vous me permettez cette toute petite description, voilà, le dialogue principal oppose un abbé, un ecclésiastique docteur en droit canonique et plutôt de sensibilité royaliste, même plutôt légitimiste d'ailleurs, ce qui en 1920 n'est pas forcément très courant, je dois le reconnaître, et puis un avocat laïciste républicain. Ils sont très adversaires, naturellement, notamment évidemment à cause des lois sur les congrégations religieuses, la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais il y a quand même un respect mutuel dans la mesure où l'un comme l'autre ont participé à la Première Guerre mondiale. Et le fait que l'intrigue, le dialogue se situe en 1920, c'est important. Parce qu'effectivement, nous sommes après la Première Guerre mondiale et après la victoire, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Alsace-Moselle a été récupérée alors qu'elle était occupée par l'Empire allemand depuis 1870. Bien. Donc, ils sont adversaires, mais ils se respectent. Et à ces deux personnages se joignent deux frères. L'un est officier de marine. Il pense très sincèrement être du côté de l'abbé, c'est-à-dire pour dire les choses, il pense très sincèrement être du côté blanc. Mais il y a un certain nombre d'imprécisions dans ses positions qui font qu'il est peut-être plus conservateur que réactionnaire. Voilà déjà une première distinction. L'avocat, naturellement, c'est le bleu. Et d'une certaine manière, le combat entre le bleu et le blanc, c'est le combat du 19e siècle, depuis la Révolution française. Et puis, il y a un quatrième protagoniste, c'est le frère de l'officier de marine, c'est un professeur de mathématiques, il a, je dirais, un aspect très rationnel, il y a un aspect très rationnel dans ce personnage, mais en outre, il a été extrêmement heurté, et on le comprend, par l'âpreté, la boucherie des combats de la Première Guerre mondiale. Il est très clairement sur la pente pacifiste et son matérialisme le conduit à eh bien, des positions socialistes et pour tout dire collectivistes. On le sait, à la fin de l'année 1920, au mois de décembre 1920, donc quelques mois après le moment où ce dialogue a lieu, eh bien, il y aura le congrès hein, de la SFIO, de la section française de l'Internationale ouvrière, et c'est à ce moment-là qu'il y aura la scission entre les socialistes et les communistes. Et donc ce quatrième personnage, c'est le rouge. Autrement dit, on a dans ce dialogue eh bien, la distinction entre les trois couleurs, hein, entre le blanc, le bleu et le rouge. Et l'une des questions qui se pose, c'est quelle est la couleur qui est la plus proche de ce qu'est le patriotisme authentique et quelle est la couleur politique qui véritablement eh bien, permet la défense de l'identité traditionnelle de la France. Étant entendu donc qu'il va y avoir eh bien, à la fois des convergences, parfois entre le blanc et le rouge, et évidemment des affrontements très forts entre le blanc, le bleu, et le blanc et le rouge. Et donc, par conséquent, voilà ce que j'ai essayé de traduire avec comme ligne, je dirais, principale, l'affrontement entre l'abbé et l'avocat. Mais sur cette ligne viennent se greffer un certain nombre comment dire, de précisions. Quelqu'un qui se croit véritablement blanc, mais qui ne l'est peut-être pas autant qu'il le croit, eh bien, c'est l'officier de marine. Et puis, dans le camp républicain, eh bien, il y a le rouge qui commence déjà à concurrencer le bleu. Hein, on sait bien que la Troisième République a été mise en place par les républicains radicaux, mais ces républicains radicaux qui sont la gauche, eh bien, ils sont petit à petit concurrencés par le socialisme. Et donc, il y a bien sûr un affrontement entre les blancs et les rouges, mais aussi une concurrence entre le blanc et le rouge. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair avec cette, comment dire, cette illustration colorisée des choses.
Alors, pour la préciser un peu, si vous le permettez,
Sûr.
la position du blanc est assez simple à entendre, si je puis dire, pour tout auditeur de Radio Courtoisie. La distinction entre le bleu et le rouge pourrait paraître un peu ardu dans la mesure où on voit bien que le républicain ou les républicains essayent de récupérer Jeanne d'Arc, c'est l'héroïne de la patrie. En quoi le rouge irait plus loin vers Jeanne d'Arc, d'une certaine façon, si je puis ainsi m'exprimer?
Alors, je ne suis pas certain qu'il aille plus loin que le bleu vers Jeanne d'Arc. En revanche, il est clair que les Républicains veulent voir dans Jeanne d'Arc la fille du peuple. Hein, c'est ce que Jules Michelet et Jules Quicherat au XIXe siècle avaient mis en exergue. Et c'est notamment face à cette prétention de récupération par les Républicains que Mgr Dupanloup a lancé à partir de 1869 une procédure de canonisation pour bien faire valoir le fait que Jeanne avait été motivée et principalement mue par son catholicisme, même si par ailleurs, bien sûr, eh bien, elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur, c'est le moins qu'on puisse dire, par le tribunal d'inquisition en 1430. Bon, non, je ne crois pas que le rouge aille forcément plus loin. Il converge sur un point, donc c'est la fille du peuple. Bien. Mais en revanche, il est certain que le bleu, l'avocat républicain, a incontestablement tendance à penser que Jeanne d'Arc n'est légitime que dans la mesure où, eh bien, elle assurerait la défense des institutions légales, des institutions en place contre l'adversaire extérieur. Tandis que le rouge, en revanche, lui, il est prêt à la révolution. Il est prêt à la mise à bas des institutions. Et donc Jeanne d'Arc, il ne la voit pas du tout comme celle qui a défendu le roi légitime de l'époque, même si par ailleurs, évidemment, le bleu n'est pas un aficionado, c'est le moins qu'on puisse dire, de Charles VII, mais il ne la voit pas comme celle qui a défendu la légalité contre le renversement par les armées étrangères, les armées anglaises. Il la voit comme étant celle qui a assuré la volonté populaire contre les élites qui se sont vendues aux Anglais. Voilà. Est-ce que vous voulez que je développe un peu ou est-ce que j'ai été suffisamment clair? Voilà. Pour dire les choses en un mot, les deux, le bleu et le rouge, voient dans Jeanne d'Arc la fille du peuple et non pas la catholique. Mais le bleu voit dans Jeanne d'Arc celle qui a sauvé le régime. Alors, à l'époque, c'était la royauté, dit-il dans le dialogue. Tant pis, c'était simplement les institutions de l'époque. Mais elle a défendu les institutions en place contre l'invasion étrangère. Donc là, il y a incontestablement une forme, je dirais, de patriotisme. Mais le rouge va plus loin dans le sens où il fait valoir le fait que ces institutions, en place, elles s'étaient pour beaucoup vendues à l'envahisseur. C'est le cas, disons-le chose très clairement, de l'Université de Paris, hein, de l'Université de Paris, bien sûr.
C'est le cas tout au long de l'histoire, si je puis me permettre cette incise, d'un grand nombre d'intellectuels ou d'élites qui ne savent pas s'opposer aux envahisseurs en général.
Disons que quand j'ai écrit mon texte, bien sûr, je l'ai situé en 1920, mais disons qu'il aborde tout un ensemble de sujets. Aussi bien au cours de la vie de Jeanne d'Arc que dans le débat politique du début du XXe siècle, qui sont encore d'actualité. Hein. Il va sans dire qu'évidemment, le légalisme, la légitimité, la question du régime politique, la question de la de l'identité, la définition de la patrie. Est-ce que la patrie, c'est un corps charnel, c'est quelque chose que l'on reçoit de ses pairs, ou est-ce que la patrie, c'est le régime politique que l'on se construit et que l'on se choisit? Sous la Révolution française, vous savez bien que patriote, ça ne voulait pas dire eh bien, quelqu'un qui défend la terre de ses pairs. Patriote, c'est celui qui choisit la Révolution et le régime politique qui se met en place. Donc, il est bien évident que c'est toutes ces questions qui sont abordées dans le dialogue, eh bien, sont des questions encore d'actualité. Je ne vous cache pas qu'évidemment, ce dialogue, cette lecture pourrait être utile à nos contemporains, à nos compatriotes, pour se faire une idée de ce qu'est véritablement la question de l'identité nationale. En particulier, est-ce que l'identité nationale, c'est une construction artificielle de ceux qui sont présents à un moment donné sur un territoire, ou est-ce que l'identité nationale, à l'inverse, c'est quelque chose qui est lié à une ontologie, qui est lié à ce qui a donné naissance au corps, au corps social? Et il est bien évident que Jeanne d'Arc répond que c'est une ontologie, et que par conséquent, si l'on veut honorer Jeanne d'Arc, eh bien, ça veut dire que l'on considère implicitement, me semble-t-il, que le catholicisme fait intrinsèquement partie de l'identité nationale. C'est pas simplement les racines chrétiennes, hein, de la France ou de l'Europe, c'est l'identité catholique de la France, hein. Et je trouve assez significatif, hein, que certains partis politiques qui avaient était amené à vouloir honorer Jeanne d'Arc, ont finalement arrêté de le faire.
Alors, avant de poursuivre sur ce parallèle, j'allais dire, entre deux époques, je voudrais vous poser une question. Excusez-moi, on fait des allers-retours parce que finalement, les questions et les sujets nous emmènent fort loin et que moi, j'essaye de suivre un peu certaines des questions que m'ont inspiré votre livre. J'avais une question et je la pose maintenant, même si elle n'est pas tout à fait dans la suite logique de ce que vous venez de dire. Mais je pense que un peu plus tard, je finirai par l'égarer. J'avais une question sur votre sous-titre. Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine et sous-titré ou le testament posthume de Jeanne d'Arc. Que je sache, Jeanne d'Arc n'a pas laissé de testament. Et donc, il faut prendre ça sous forme métaphorique, mais comment est-ce que le débat que vous écrivez, que vous décrivez entre ces diverses tendances pourraient être amenées à constituer le testament spirituel ou politique de Jeanne d'Arc?
Ben, écoutez, merci, parce qu'évidemment, le sous-titre, le titre d'un ouvrage, il a pour but, bien sûr, je dirais, d'attirer un peu l'œil. Le sous-titre a très souvent pour objectif de comment dire, d'enraciner l'œuvre dans une problématique, hein. Vous savez, quand j'avais sorti il y a quelques années, La guerre à droite aura bien lieu, le titre avait pour objectif, eh bien, d'attirer l'œil, et le sous-titre, c'était le mouvement d'extrogir, c'est-à-dire, voilà, comment est-ce que sur le moyen et le long terme, on peut analyser l'histoire des idées politiques et leur positionnement sur le spectre politique. Bien là, de la même manière, le sous-titre, Le testament posthume de Jeanne d'Arc, c'est évidemment l'enjeu. C'est l'enjeu de ce dialogue. C'est-à-dire que il y a bien sûr la geste, il y a l'épopée, il y a comment dire les différents événements que Jeanne d'Arc a vécu et que le dialogue rappelle. C'est-à-dire que, je le dis d'ailleurs pour ceux que ça pourrait intéresser, vous retrouverez l'essentiel, je dirais, des scènes de la vie publique de Jeanne d'Arc évoquées dans le dialogue et disséquées par les différents personnages. Comment est-ce qu'on peut interpréter eh bien, aussi bien le procès, bien évidemment, que son activité militaire, que eh bien, ses prises de position vis-à-vis des Anglais ou vis-à-vis de l'Église catholique. Bon, donc on retrouve bien sûr dans ce dialogue les différentes étapes de la vie de Jeanne d'Arc et ces différentes prises de position et ces différentes activités. Ce que j'ai justement voulu montrer, c'est que l'héritage de Jeanne d'Arc, l'œuvre de Jeanne d'Arc, elle ne se résume pas au début du XVe siècle. L'œuvre de Jeanne d'Arc, elle ne se réduit pas au fait d'avoir permis à Charles VII de monter sur le trône, alors que, par le honteux traité de Troyes de 1420, eh bien Charles VI, circonvenu par son épouse Isabeau de Bavière, avait exhérédé le dauphin, c'est-à-dire qu'il l'avait exclu de la succession à la couronne et qu'il avait confié dans le fond la couronne au roi d'Angleterre et à son futur petit-fils, puisque le roi d'Angleterre Henri V épousait Catherine de France. Bien, l'œuvre de Jeanne d'Arc, elle ne s'est réduite pas à ça, au fait d'avoir rétabli le roi légitime Charles VII, d'avoir contribué à faire gagner au final la guerre de Cent Ans. C'est déjà évidemment une œuvre relativement importante, évidemment. Mais en fait, par ses gestes, par ses paroles, par la manière dont elle s'est comportée, elle va bien au-delà. Elle nous offre, par anticipation, une manière d'aborder la vie politique, d'aborder un certain nombre de notions, le patriotisme, l'identité, la place de la religion, l'articulation du spirituel et du temporel, etc. Elle nous offre par anticipation, d'une certaine manière, une certaine conception de l'ordre social et de l'ordre politique qui était, comment dire, enfin, qui nous est utile dans des circonstances qui ne sont plus du tout celles du XVe siècle. Et c'est en cela que le personnage de Jeanne d'Arc est sans doute encore plus fabuleux qu'on ne l'imagine, parce que une jeune femme qui n'a même pas 20 ans, qui obtient du roi de pouvoir eh bien, lancer une expédition pour aller lever le siège de la ville d'Orléans, qui ensuite permet au roi d'aller être sacré à Reims en juillet 1429, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà quelque chose d'historiquement exceptionnel. Mais ça ne se réduit pas à ça, le côté exceptionnel de Jeanne d'Arc. Le côté exceptionnel, c'est que si on y est attentif, et c'est ce que j'ai essayé de montrer par ce dialogue, les différentes étapes de sa vie, les différentes positions qu'elle a prises nous donnent un enseignement pour aujourd'hui, alors même que, évidemment, les circonstances politiques de la laïcité, elle ne pouvait évidemment pas l'imaginer. Les circonstances politiques d'une présence, je dirais, très nombreuse, peut-être encore plus nombreuse qu'au XVe siècle, je dirais, d'éléments, d'une, je dirais, exogènes au corps social et qui peuvent peut-être chercher à comment dire, à en détruire la cohésion, eh bien, elle ne pouvait sans doute pas l'imaginer tel que c'est devenu. Et pourtant, Jeanne d'Arc nous offre une manière de comprendre les choses et les analyser et d'y réagir. C'est ça le testament posthume de Jeanne d'Arc. C'est en tout cas cela que j'ai essayé de montrer à travers l'évocation de sa geste et les différentes manières de l'aborder entre ces personnages. Et j'ai situé, par, je dirais, intérêt, ce dialogue en 1920. Parce que justement, en 1920, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va honorer quand on va honorer Jeanne d'Arc lors de cette fête nationale, du patriotisme.
Alors, cher Guillaume, nous allons revenir à ces questions dans un instant, mais comme d'habitude, sur Radio Courtoisie, il nous faut écouter l'important Bobino qui permet à Radio Courtoisie de vivre, et puis une petite pause musicale, et nous reprenons juste après.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois, 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
À peu près au moment de la canonisation de la sainte par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on sait également qu'elle avait elle-même joué le rôle de Jeanne d'Arc dans certaines pièces en son couvent. Donc je pensais que c'était un morceau à rappeler parce que, évidemment, on pourrait trouver bien des chants à Jeanne. Il y a peut-être autant de chants. En hommage, parfois curieux, mais en hommage en général à Jeanne d'Arc, qu'il y a de livres écrits sur elle. Voilà, c'était donc une manière de retrouver l'atmosphère de cette époque de la canonisation dans laquelle votre livre, Guillaume Bernard, est écrit. Donc je rappelle pour les auditeurs qui nous prendraient en route que nous sommes non pas en direct, mais en différé, et je le regrette, dans l'émission Lumière de l'Espérance, l'émission du dimanche de Radio Courtoisie, et que nous discutons de Jeanne d'Arc avec Guillaume Bernard à propos de son dernier livre, Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine. Donc, cher Guillaume...
Vous permettez, pardonnez-moi, oui. Juste si vous permettez, je pense... Alors, je ne voudrais pas anticiper sur certaines de vos questions, mais vous avez eu raison, évidemment, de mettre le texte de Sainte Thérèse. Précisons une chose, c'est que Sainte Thérèse considérait que Jeanne avait été martyre de sa foi, ce qui n'a pas été, en revanche, retenu, vous le savez, par... ce qui n'a pas été retenu par la décision du Saint-Siège, mais voilà, c'est une des questions qui pourrait rester en suspens ou dans le dialogue ou dans la discussion ou dans la recherche, mais en tout cas, Jeanne est mise sur les autels depuis 1920, mais elle n'a pas été reconnue martyre.
Alors, effectivement, nous sommes en 1920, du moins vos personnages y sont, vous y êtes vous-même quand vous écrivez, le lecteur avec vous. C'est assez curieux cette époque, on a l'impression que l'Église se décide enfin, si je puis dire, parce que Jeanne d'Arc, ça a quand même quelques siècles, se décide enfin à la canoniser et que... immédiatement, la République se décide à en faire une héroïne. Est-ce qu'il y a un simple concours de circonstances ou est-ce que chacun essaye de tirer Jeanne d'Arc à soi ?
Ah, je crois que chacun essaye de tirer Jeanne d'Arc à soi, hein, et d'où le titre, hein, vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine, chacun revendique Jeanne pour son propre camp. Il faut bien le dire, c'est plutôt l'érudition républicaine et presque laïcarde, anticléricale, qui a sorti Jeanne d'Arc un peu de la naphtaline, pardon de le dire ainsi. Hein. Il y a d'abord Jules Michelet. Alors lui, c'est pas forcément l'érudition, disons que c'est là. Ce qu'on appelle le roman national, hein, qui aujourd'hui est si honni, alors qu'en fait c'est une création, pour dire les choses de manière simplifiée, de la gauche. Hein. L'idée du roman national, c'est quoi? C'est de dire, dans le fond, les institutions républicaines et libérales auxquelles nous avons abouti, eh bien, tout y menait. Tout y mener. Hein. Et donc, il faut en accepter l'existence. Bon, passons. En tout cas, c'est d'abord Jules Michelet, le roman national. Et puis après, c'est un autre Jules, Jules Quicherat, dont il faut bien dire que les travaux scientifiques ont été extrêmement importants pour la reconstitution des textes des procès, du procès évidemment de condamnation, du procès d'inquisition, puis ensuite du procès dit de réhabilitation. C'est pas exactement le terme qu'il faudrait utiliser, mais enfin, ça va plus vite de le dire ainsi. Procès de condamnation, procès de réhabilitation, donc 25 ans, environ 25 ans plus tard. Et donc, c'est dans ces circonstances d'un nouvel intérêt pour Jeanne d'Arc, que Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, s'appuyant, alors là pour le coup, sur une ferveur populaire en l'honneur de Jeanne à Orléans qui n'a pas disparu hein, pendant des siècles, que, eh bien, il lance la procédure de canonisation, qui est une procédure très lente, hein, puisqu'on le sait bien, ça passe par différentes étapes. Il faut reconnaître l'héroïcité des vertus. Il y a ensuite donc être reconnu vénérable. Ensuite, on est reconnu. On est béatifié. Et puis enfin, il y a la canonisation qui aboutit en 1920. Et c'est au cours de cette très longue procédure que suit l'Église que un député, enfin un homme politique, pardon, un parlementaire radical socialiste, Joseph Fabre, émet l'idée de voter une loi en faveur, eh bien, de Jeanne d'Arc, une loi en faveur du patriotisme. Cette loi, eh bien, il réussit, parce qu'il est député et sénateur, il réussit à la faire voter par le Sénat à la fin du XIXe siècle. Lorsqu'il avait été auparavant député, il n'avait pas réussi à faire voter le texte par la Chambre des députés, mais il réussit à ce que cette loi soit votée par le Sénat. Et puis ensuite, plus rien. Plus rien pendant 25 ans. Pendant un quart de siècle, et du coup, un de mes personnages se permet de dire que c'est l'une des navettes parlementaires les plus longues de l'histoire. Je ne suis pas allé vérifier s'il n'y avait pas eu des cas encore plus longs, mais en tout cas, il est certain que c'est une navette parlementaire extrêmement longue, puisque ce n'est qu'en 1920 que, sur la base du texte qui avait été voté par le Sénat en 1894-1895, eh bien, la Chambre des députés vote le même texte. Et cette fois-ci, ça n'est plus à l'initiative, disons les choses, d'un député de gauche, c'est à l'initiative d'un député de droite, un certain Maurice Barrès, qui obtient que la Chambre des députés vote à l'unanimité et à main levée le texte. Barrès est motivé par, comment dire, bien sûr, évidemment, hein, c'est l'homme des Déracinés, hein, le fameux roman Les Déracinés, c'est l'homme évidemment du nationalisme, évidemment. Et bien sûr, il voit dans Jeanne d'Arc, eh bien, le défenseur de la patrie. Il est incontestable qu'il considère que chacun des courants politiques peut être amené à accepter de voter cette loi parce que chacun de ces courants va projeter sur Jeanne d'Arc, eh bien, ses propres idées. Hein? Et d'ailleurs, dans le discours qu'il tient, il est très clair que là, il fait preuve d'un syncrétisme incroyable, puisqu'il dit bah, les cathos peuvent voir en elle eh bien, la catholique, les royalistes peuvent voir en elle celle qui rétablit Charles VII sur le trône, les socialistes peuvent voir en elle la paysanne, la fille issue du peuple, etc., etc. Et il obtient effectivement que soit votée par la Chambre des députés cette loi. Et comme elle avait été votée 25 ans plus tôt par eh bien, le Sénat, eh bien, du coup, la loi peut être promulguée. Nous sommes en juillet 1920. Et il est clair que la motivation de Barrès, c'est de profiter des circonstances pour honorer Jeanne d'Arc. Et il s'agit en aucun cas de faire un procès d'intention à Barrès. En revanche, il est clair qu'il y a un certain nombre de députés qui ont voté cette loi pour essayer de faire la nique, pour essayer de concurrencer la décision intervenue quelques semaines plus tôt, en mai 1920, c'est-à-dire la décision du Saint-Siège de canoniser Jeanne d'Arc, de la mettre sur les autels.
Alors, je ne voudrais pas précipiter la conclusion d'une émission qui n'est encore qu'à sa moitié, mais autant, d'une certaine façon, il me paraît, nous sommes toujours en 1920, je ne veux pas faire d'anachronisme, il me paraît assez facile pour l'Église ou pour les catholiques d'admettre que leur sainte soit une héroïne de la patrie. Autant pour les bleus ou les rouges, j'allais dire sans réelle distinction sur ce point précis, il est un peu compliqué d'avoir un défenseur de la patrie, je ne dirais pas une défenseur parce que c'est horrible, un défenseur de la patrie qui soit également un saint, même si c'est difficile de gommer complètement l'aspect religieux de la vie de Jeanne d'Arc. Comment est-ce que l'accord se fait dans les milieux politiques sur ce point précis?
Ah, mais l'accord se fait parce que justement, il s'agit d'éviter qu'il y ait un monopole de l'autre camp sur Jeanne d'Arc. Et donc, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, puisque les catholiques, et d'ailleurs, ils ne se gênent pas pour le dire, hein, les républicains, puisque les catholiques, eh bien, l'ont canonisée alors qu'elle avait été condamnée, ce qui est parfaitement exact, hein, par un tribunal d'inquisition, hein, elle avait été excommuniée, elle aussi, bon. Ça me fait rire de le dire aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, puisque Jeanne a été excommuniée, déclarée relapse, etc., hérétique, bon, eh bien, il ne se gêne évidemment pas pour dire que l'Église faisait à leurs yeux preuve d'une certaine incohérence, d'où le fait que, eh bien, ils prétendent ne pas laisser l'Église et les catholiques et les royalistes accaparer Jeanne d'Arc, mais qu'il faudrait pouvoir la considérer comme étant une héroïne du peuple. Voilà. Vous avez évidemment raison sur le fait de dire que ça doit les gêner, hein, que ça les gêne, bien sûr, que on dise Sainte Jeanne d'Arc et non pas simplement Jeanne d'Arc, mais en l'honorant, eh bien, ils évitent de la laisser entièrement au camp réactionnaire. Voilà. Ce qui est évidemment dans le dialogue, et je ne voudrais pas déflorer, parce que non pas que je sois dans une stratégie de vente à tout prix du livre, bien sûr, ça me ferait plaisir qu'il y ait beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie qui l'achètent et qui le lisent. Bon, mais je ne voudrais pas, comment dire, déflorer trop d'éléments qui, comment dire, affadiraient la lecture. Bon, mais il est bien évident quand même que l'abbé royaliste dans ce dialogue annonce quand même aux républicains que s'ils ne comprennent pas ce qu'était la patrie que Jeanne d'Arc a défendue, eh bien, il est certain qu'ils vont finir par abandonner eh bien, l'hommage qu'ils prétendent lui rendre. C'est-à-dire que, il est bien évident que cette loi de 1920, elle a été votée pour éviter que l'Église catholique et que les royalistes, et pour dire les choses rapidement, que les réactionnaires n'aient un monopole sur Jeanne d'Arc, les républicains ont prétendu que Jeanne d'Arc était une héroïne à laquelle ils pouvaient adhérer, du moins sous certains aspects, mais dans le fond, l'image, enfin les idées qu'ils projettent sur Jeanne d'Arc étant anachroniques, eh bien, il est certain que ils vont finir par abandonner la fête du patriotisme. Et on sait très bien qu'elle est tombée finalement en désuétude. Et tout d'un coup, dans les années 80, il s'avère qu'il y a un homme politique qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, qui, après d'autres mouvements qui avaient continué l'hommage à Jeanne d'Arc, mais enfin, lui donne à cette fête une envergure beaucoup plus grande. Jean-Marie Le Pen, comment dire, réinstaure d'une certaine manière cette fête de Jeanne d'Arc, et tout d'un coup, là, à nouveau, on entend un certain nombre de personnes eh bien, se plaindre de ce que les réactionnaires, l'extrême droite, eh bien, n'accaparent Jeanne d'Arc. On a retrouvé le même type de débat dans les années 80 et 90 que ceux que l'on avait pu avoir 60 ou 70 ans ou 70 ans avant. Mais j'insiste tout de même sur le fait que l'un des enjeux du dialogue, et j'espère l'avoir, comment dire, étayé, hein, développé, et les lecteurs, eh bien, je l'espère, le constateront, c'est qu'il y a dans l'affrontement entre ces différents protagonistes comment dire, l'explication des différentes manières d'appréhender et de concevoir la patrie qui explique que si, dans un premier temps, les républicains, les bleus et les rouges veulent éviter que Jeanne ne soit entièrement prise par le parti blanc, eh bien, dans le fond, ils ne comprennent pas ce qu'est Jeanne d'Arc et ils vont finir par abandonner l'hommage qu'ils prétendaient lui rendre.
Alors, pour bien préciser ce point, en tout cas pour moi, et je l'espère pour les auditeurs, et avant de franchir le siècle comme vous avez commencé à le faire à l'instant, est-ce qu'il n'y avait pas dans l'histoire des héros que les bleus ou les rouges, que la gauche en général, auraient pu s'accaparer sans déroger à la question de l'héroïcité, mais sans avoir à se battre avec les blancs, les catholiques, etc., en prenant finalement un personnage qui est un peu controversé dans la mesure où il peut satisfaire tout le monde.
Mais vous savez, Olivier, je crois que c'est difficile pour eux de trouver dans l'histoire, avant la Révolution française, des personnages qui peuvent vraiment les satisfaire. Parce que ces personnages-là, même si, je dirais, ils ne sont pas toujours, je dirais, absolument exemplaires, ils vivent dans une société, ils adhèrent à une société qui vit selon des principes qui ne sont pas les leurs. Pardon, je ne sais pas si mon exemple, là, je le prends, je le développe à brûle-pourpoint et j'espère être clair, mais vous savez, quand on critique Philippe de Villiers, le Puy du Fou, et aujourd'hui Nicolas de Villiers, en disant, mais vous manipulez l'histoire. Bon, alors, d'abord, le Puy du Fou n'a jamais prétendu faire une œuvre académique. Ils font des spectacles, ils font des évocations historiques et ils valorisent ce qui assure l'unité plutôt que de mettre en exergue ce qui divise. Bon, premier élément. Et puis deuxième élément, on les accuse de manipuler l'histoire parce qu'en fait, les personnages de l'histoire, eh bien, sont des personnages qui ne sont pas mus par l'idéologie révolutionnaire. Et ce simple fait-là, eh bien, rend suspect. Vous pouvez raconter absolument tout ce que vous voulez sur tel ou tel personnage, dans la mesure où il n'est pas mu par une idéologie constructiviste et subjectiviste, eh bien, il ne sera jamais satisfaisant aux yeux, eh bien, des tenants de la modernité politique. Donc, trouver dans l'histoire des personnages qui, eh bien, soient à leur goût, dans le fond, il n'y en a pas tant que ça. Et Jeanne d'Arc, pourquoi est-ce qu'elle les a intéressés? Elle les a intéressés parce que, d'abord, ce qui est parfaitement exact, c'est une fille du peuple. Alors, faut pas non plus exagérer, c'est pas le lumpenprolétariat. Hein. Jeanne d'Arc, c'est pas Rosa Luxembourg. Bon, son père était ce qu'on appelle, ça y est, le terme va m'échapper, un laboureur, c'est-à-dire que c'était un paysan relativement aisé. Attention, un paysan relativement aisé, ça ne veut pas dire non plus hein, quelqu'un d'extrêmement riche. Mais enfin, ce n'est pas non plus, je dirais, comment dire, la misère. Hein, ce n'est pas les bas-fonds, c'est pas. Bon. Mais enfin, elle est quand même issue du peuple. Et elle a été condamnée par un tribunal d'inquisition. Donc, dans le fond, Jeanne d'Arc, elle était pour eux presque le personnage idéal. En oubliant, et bien sûr, qu'il y a eu quand même le procès de réhabilitation. Qui évidemment a reconnu que Jeanne n'était pas ce pourquoi elle avait été condamnée 25 ans plus tôt. Ça, on le met quand même de côté. Mais une fille du peuple qui a combattu l'armée étrangère, qui a été abandonnée par les institutions intellectuelles de l'époque, les grandes institutions de l'époque, et qui a été condamnée par l'Inquisition. Dans le fond, c'était un personnage presque idéal pour eux et presque inespéré pour eux. Hein? Presque inespéré. Et donc, la procédure de canonisation lancée par Monseigneur Dupanloup, c'était pour eux extrêmement ennuyeux. Et ce n'est qu'in extremis qu'effectivement, ils ont accepté de voter à l'initiative de Barrès, qui d'une certaine manière là, alors, pardonnez-moi l'expression un peu familière, les a peut-être un peu entourloupés, hein, leur a
Ouais,
un peu
il s'est trouvé
forcé la main.
inspiré.
Voilà. Eh bien, ils ont accepté in extremis de voter cette loi en l'honneur de Jeanne d'Arc bah, pour essayer de sauver la situation et de ne pas abandonner entièrement Jeanne au parti blanc. Voilà. Je crois que il est important de comprendre que. Alors là, pour le coup, on va peut-être plus se lancer dans de la philosophie politique. C'est promis, je ne vais pas être trop long. Mais la principale question, je dirais, politique, c'est de savoir est-ce que le corps social est une donnée de l'ordre naturel des choses, ce que pense aussi bien le païen Aristote que le chrétien saint Thomas d'Aquin, ou est-ce qu'à l'inverse, le corps social est une construction artificielle issue de la volonté? Et ça, c'est le cas aussi bien des libéraux que des socialistes. Et de ce point de vue-là, notre bleu, l'avocat bleu et le professeur de mathématiques rouge de ma pièce, de mon dialogue, eh bien, de ce point de vue-là, ils convergent. Ils ne sont pas exactement d'accord sur la manière dont doit fonctionner ce contrat social, mais ils sont d'accord sur le fait que la société est issue d'un contrat social. Et eh bien, voilà la véritable ligne de fracture entre la sociabilité naturelle et la sociabilité artificielle. Et c'est ce qui fait, et j'ai essayé de l'expliquer, que sur la place du catholicisme dans l'identité, sur la définition de la nation, de la patrie, et donc du patriotisme et du nationalisme, eh bien, il y a véritablement une ligne de fracture entre ceux qui pensent que l'ordre social est un ordre inscrit dans un ordre cosmologique des choses ou un ordre naturel des choses, et ceux qui, à l'inverse, pensent que l'ordre social est une construction. Et d'une certaine manière, ça peut peut-être nous amener à ce que vous voulez qu'on évoque. Je vous vois venir, je vous connais un peu, Olivier Figueras. Nous avons travaillé plusieurs fois ensemble sur un certain nombre de sujets. Et je connais, je dirais, votre esprit sagace et parfois, je dirais, un peu pervers. Pas pervers moralement, naturellement, mais bon, évidemment que ces questions-là. Elles sont encore d'actualité. Et c'est pour ça que c'est le testament posthume de Jeanne d'Arc. C'est que Jeanne d'Arc nous offre l'occasion de comprendre, à travers des questions qui se posaient dans son temps, des questions qui se continuent à se poser dans d'autres circonstances.
Alors, cher Guillaume, nous allons laisser de côté un peu l'aspect purement philosophique qui peut-être nous entraînerait fort loin. Je vais aussi oublier un instant vos accusations personnelles, dont peut-être je vous demanderai de me rendre compte à la façon dont on le faisait au temps de Jeanne d'Arc, voire encore en 1920, un jour ou l'autre.
Vous viendrez plutôt boire du whisky à la maison, cher Olivier.
Ah, bah pourquoi pas. Mais nous verrons cela en temps opportun. Nous allons, comme vous avez commencé de le faire, franchir le siècle, pourquoi pas le millénaire, quasiment, pour venir à l'heure actuelle. Vous avez évoqué tout à l'heure Jean-Marie Le Pen à propos de Jeanne d'Arc. Vous avez aussi évoqué certains partis qui avaient cessé de s'intéresser à Jeanne d'Arc. On a l'impression qu'aujourd'hui, en 2026, là, au moment où nous parlons, Jeanne d'Arc n'a plus la cote qu'elle avait il y a un siècle. Est-ce que finalement on pourrait dire blanc et bleu ou rouge sont d'accord pour la porter au pinacle quand ils sont quand tous les deux y ont intérêt en même temps, comme diraient certaines personnes, et d'un autre côté l'abandonner quand ça ne sert plus leurs propres intérêts?
Alors, j'ai tendance à penser qu'il y a une incompréhension dans le camp de droite de ce qu'est Jeanne d'Arc. Et c'est, je dois vous l'avouer, une des raisons qui m'a motivé dans l'écriture de cet ouvrage. Alors attention, je ne prétends pas avoir un ouvrage à tiroir dans lequel il faudrait trouver, je dirais, des messages subliminaux. Moi, je suis extrêmement rétif à l'ésotérisme. J'aime bien que les choses soient clairement dites. Donc, rassurez-vous et que les auditeurs et les spectateurs de Courtoisie soient rassurés. Je dis les choses absolument clairement. Il n'y a pas à chercher un sens caché derrière ce que je dis. En revanche, oui, je pense que comprendre Jeanne d'Arc, puisqu'encore une fois, dans cet ouvrage, il y a à la fois la vie de Jeanne d'Arc, l'héritage de Jeanne d'Arc tel qu'il a été compris entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, et finalement ce que l'on peut en recevoir comme héritage aujourd'hui, il y a ces différentes strates, je pense qu'effectivement on doit ou on peut, ou il serait utile de comprendre ce qu'a été véritablement Jeanne d'Arc pour éviter de commettre un certain nombre d'impairs. Je dirais, dans l'analyse politique. Par exemple, confondre, le droit naturel avec, la morale. Alors, que les choses soient bien claires, attention, hein, je sais que les auditeurs de Courtoisie sont très à cheval sur cette question. Bien évidemment, une conduite morale aboutit à une juste répartition des choses. Et une juste répartition des choses favorise une conduite qui soit vertueuse. Que les choses soient bien claires. Je n'oppose pas la morale et le droit. En revanche, la morale et le droit ne s'occupent pas de la même chose. Elle ne gère pas les mêmes questions. Je suis toujours effaré par ceux qui nous expliquent que vraiment, il est hors de question que la loi morale soit au-dessus de la loi civile. J'ai toujours tendance à répondre à ces interlocuteurs-là en leur disant que si le texte de droit voté ou envisagé par les hommes politiques est susceptible de rentrer en contrariété avec des dispositions morales, c'est que dans ce cas-là, leur loi s'occupe de questions qui ne sont pas de leurs compétences. Parce que fondamentalement, il n'y a pas, l'approche classique, l'approche occidentale de la répartition des domaines fait qu'une question, elle n'a pas besoin la morale n'a pas à se substituer au droit et l'inverse encore moins. Hein. J'espère que je suis à peu près clair. Tout ça pour dire que Jeanne d'Arc, elle nous enseigne justement cette chose-là. Elle ne dit pas que les Anglais sont haïs par Dieu. Elle dit que les Anglais prennent plus que ce qui leur revient et que, par conséquent, ils commettent une démesure, ils commettent une hubris, auraient dit les Grecs anciens, et que donc il faut leur reprendre ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont usurpé. Voilà. Il ne s'agit pas là d'un jugement moral des Anglais. Ce n'est pas Dieu qui n'aime pas les Anglais, c'est tout simplement Dieu qui souhaite qu'il y ait une juste répartition des choses. Ça n'est qu'un exemple, il y en a plusieurs dans l'ouvrage, évoqués de manière plus ou moins explicite, mais voilà un exemple, je dirais, d'enseignement de Jeanne d'Arc qui devrait éviter à un certain nombre de nos hommes politiques de ne pas comprendre, par exemple, la place du catholicisme dans l'identité de la France. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas, je peux le regretter, individuellement la foi, que pour autant le corps social n'a pas une identité catholique. Et ce n'est pas parce que le corps social a une identité catholique que l'on va forcer au fort interne l'homme politique ou la personne qui n'a pas la foi. Et ce n'est pas au nom, je dirais, de la morale des mœurs que l'on souhaite qu'il n'y ait pas d'avortement et que l'on est contre la constitutionnalisation de l'avortement. Ce n'est pas parce qu'on est un cul béni, une grenouille de bénitier ou un cateau coincé qu'on est contre la constitutionnalisation de l'avortement. C'est parce que l'avortement élimine un être innocent. C'est contraire à la juste rétribution des actes. L'enfant à naître n'a commis aucun acte qui justifie que la rétribution de cet acte soit sa mise à mort. Voilà l'enseignement de Jeanne d'Arc. Il permet de comprendre qu'il y a une articulation harmonieuse entre le spirituel et le temporel, entre la religion et le politique. Or, beaucoup de nos hommes politiques, et en particulier ceux qui devraient être sensible à cela, ceux qui devraient comprendre cela, eh bien, il faut bien le reconnaître, ne le comprennent plus. Alors que nos interlocuteurs rouges ou bleus ne le comprennent pas, j'aurais envie de vous dire, c'est un peu dans la nature des choses. Mais qu'un certain nombre d'hommes politiques qui sont supposés être du camp blanc ne le comprennent plus, alors ça, il faut reconnaître que c'est relativement exaspérant, et donc cet ouvrage peut-être un peu contribuer à expliquer les choses.
Alors, nous allons prolonger un petit peu, je pense, sur cette question de l'union possible entre les deux camps, mais sinon dans leur perception de Jeanne d'Arc. Mais nous allons marquer d'abord une petite pause qui nous permettra peut-être de l'éclairer.
Jeanne et la République étaient toutes deux la France, parce qu'elles étaient toutes deux l'incarnation de l'éternel appel à la justice. Le monde reconnaît la France lorsqu'elle redevient pour tous les hommes une figure secourable, et c'est pourquoi dans les pires épreuves, il ne perd jamais confiance en elle. Ô Jeanne sans sépulcre, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants, regarde cette ville fidèle. Jeanne sans portrait, peu importe tes 20 000 statues, sans compter celles des églises, à tout ce pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. Que les filles d'Orléans continuent à l'incarner tour à tour. Toutes se ressemblent, toutes te ressemblent. Lorsqu'en des temps difficiles comme celui-ci, elles expriment la fermeté, la confiance et l'espoir.
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous aurez reconnu ou pas, ça dépend sans doute de votre âge et de votre intérêt pour ces périodes de l'histoire, la voix d'André Malraux, qui en 1961, à la demande du général de Gaulle, était allé à Orléans pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Alors, cher Guillaume, cette Cet hommage de Malraux, au-delà du verbe de Malraux qui sans doute pour Charles de Gaulle était un moyen de s'assurer le concours des gens qui l'entendaient à Orléans. Cet hommage de Malraux, finalement, il essaye de faire ce lien entre la sainte et l'héroïne.
Écoutez, quand j'ai entendu les premières paroles, je dois avouer que je me suis dit que décidément, ça n'était pas, je dirais, mon auteur préféré, Malraux.
Ah, ça.
qu'en outre, je dirais, ça. Sa rhétorique, je ne sais pas si c'est le terme exact, n'est pas celle que j'apprécie le plus. C'est vrai. Bon. Mais, je ne connaissais pas ce discours. Et pour ce que j'en ai entendu, je dois reconnaître, c'est un aveu de ma part extraordinaire, je dois reconnaître qu'effectivement, je trouve son contenu pas si mal que ça.
Ben, il faut dire que le régime gaullien ou gaulliste, enfin là je pense plutôt qu'il faudrait dire gaullien, a toujours eu une certaine proximité volontaire de la part du général, d'embrigader, c'est peut-être pas le terme qu'il faut employer, mais de conserver Jeanne d'Arc dans son sérail.
Oui, eh bien, écoutez, en tout cas, il est clair que, quand Malraux dit que Jeanne, c'était la République, bon, c'est un peu abusif, sauf à entendre la République au sens de la chose publique, la res publica, et c'est parfaitement entendable. En tout cas, c'est entendable, c'est acceptable, et si ça n'est pas, je pense, la Jeanne d'Arc pleinement authentique, c'est-à-dire celle dont je pense qu'elle est, avant tout un défenseur de l'ordre naturel des choses, ordre naturel qui, d'un point de vue catholique, a été créé par Dieu. Bon. Il n'empêche que cette manière d'envisager Jeanne comme assurant la cohésion le rejet de l'étranger, de l'envahisseur et le maintien d'une certaine tradition historique, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, on peut reconnaître qu'il y a une vision relativement juste de Jeanne d'Arc. C'est vrai. Et je regrette de ne pas avoir, je ne sais pas du tout ce que j'en aurais tiré, mais je regrette effectivement de ne pas avoir connu, je le reconnais bien humblement, de ne pas avoir connu ce discours lorsque j'ai écrit mon texte.
Alors, je ne vais pas vous laisser continuer sur vos regrets. Ça n'est pas le l'heure ou le moment. Puisque la question sous laquelle j'ai formulé cette émission, Jeanne d'Arc, sainte de l'Église ou héroïne de la patrie, c'est ainsi que je l'ai posée. Est-ce que on ne pourrait pas remplacer le « ou » par un « et » finalement ?
Bien sûr. Non, mais absolument.
Et comment, dans un deuxième temps, le faire admettre à la fois au blanc et au bleu, voire au rouge.
En réinstruisant les Français de la manière classique dont on aborde l'ordre politique et l'ordre social, en rendant palpable à nos contemporains leur histoire et le bien commun. J'ai coutume de dire qu'un homme de droite, mais ça va bien au-delà de cette simple question politicienne, un homme de droite, il ne défend pas d'idées, il défend le réel. Il essaye de permettre au bien de se réaliser dans l'ordre des choses. Et donc,
je suis tout à fait d'accord, Guillaume.
Pardon ?
Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'idée d'extrême droite me paraissait contradictoire en elle-même.
Oui, oui. Alors, Oui, on pourrait en discuter, mais c'est pas le sujet.
C'est pas le
Mais
sujet.
après, évidemment, il faut être pragmatique sur comment fonctionne le système politique. Voilà, et parfois on est obligé d'utiliser des instruments d'analyse qui ne sont peut-être pas satisfaisants philosophiquement parlant, mais qui sont des instruments, comment dire, efficients du point de vue institutionnel et sociologique. Mais bon, passons. En tout cas, il est clair que c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas, enfin, ce serait fou d'imaginer qu'une victoire électorale politique pourrait changer par un coup de baguette magique les choses du jour au lendemain. Il est bien évident qu'en politique, on va préférer quelque chose à une autre chose, hein, que les choses soient bien claires. Je ne veux pas être accusé ici, je dirais, de faire le jeu de comment dire, ou de jouer contre mon camp. Bon, mais en revanche, il serait fou de s'imaginer que, eh bien, une victoire électorale aujourd'hui pourrait profondément changer l'ordre social du jour au lendemain. Et qu'ensuite, il n'y aurait dans le fond que à gérer le bon fonctionnement des choses. Non, il va falloir reconquérir le terrain. Moi, je crois que cette reconquête intellectuelle et culturelle, elle a déjà commencé, elle s'épanouit petit à petit, mais elle est très, très loin d'être terminée. Quand la modernité politique apparaît avec le nominalisme, avec l'humanisme, avec le rationalisme, avec le contractualisme social, et que ça fait des siècles que ça s'est, comment dire, distillé dans l'esprit des gens, il est bien évident que la reconquête, elle va mettre un certain temps. Alors, et bien sûr, on peut gérer un certain nombre de choses d'ici là pour essayer de faire au mieux. Mais voilà, Jeanne d'Arc, c'est un instrument qui permet, enfin c'est un exemple qui permet cette reconquête intellectuelle et culturelle, cette conversion à l'ordre naturel qui est indispensable pour pouvoir renouer avec une identité traditionnelle. Voilà.
Et alors, ce que vous dites là paraît, enfin, si on regarde l'actualité, si nous sortons de notre studio, de nos studios, puisque nous ne sommes pas dans la même pièce, et que nous allons regarder l'actualité dehors, on en paraît tellement loin, où voyez-vous trace de ce que ce travail est commencé ou puisse se faire.
Dans les mouvements de jeunesse, je ne sais pas si c'est leur rendre service que de les citer, mais il y a un certain nombre de mouvements de jeunesse qui sont extrêmement actifs. On peut toujours critiquer tel ou tel aspect des choses, mais qui tout de même vont quand même dans le bon sens, avec le scoutisme, avec des écoles, avec, je dirais, la mise en place, je dirais, de réseaux de solidarité, hein. Il est bien évident que, et puis de manière plus générale quand même, tout ce qui va dans le bon sens et qui, dans le fond, prépare, hein, la chose. Quand les idées conservatrices sont revenues un peu à l'ordre du jour, ça n'est sans doute pas satisfaisant philosophiquement parlant, mais c'est mieux que le libéralisme. Et donc, un mouvement entre guillemets conservateur comme LMPT, eh bien, il peut annoncer le fait que par la suite, il y aura, eh bien, un mouvement qui sera plus réactionnaire. Moi, je crois qu'il faut ne pas regarder les choses en termes humains, c'est-à-dire enfin, en termes, je dirais, de temporalité d'une vie humaine. Il faut voir les choses sur le plus long terme. La question de l'immigration dans les années 80 n'était pas une question légitime. Hein, quand Jean-Marie Le Pen aborde cette question dans les années 80, le simple fait d'en parler est en soi illégitime, quoi qu'ils disent. Aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait de la manière dont la question est traitée, Mais ça n'empêche que c'est une question politique légitime. Il y a donc en une quarantaine d'années déjà une évolution qui va, me semble-t-il, dans le qui va, me semble-t-il, dans le bon sens. Voilà à ces signes, hein, voilà quelques signes. Il va sans dire, bien évidemment, que c'est comment dire, un travail de longue haleine. Oui, c'est certain.
Alors, cher Guillaume, il nous reste à peine 2 minutes parce que le temps passe et qu'on pourrait dire encore bien des choses. J'aimerais qu'on dise un mot de la maison d'édition qui a osé, j'ose moi-même le terme, qui a osé publier un ouvrage finalement aussi peu en phase, semble-t-il, aujourd'hui avec ce que le commun des mortels, ou au moins de nos compatriotes, pense ou veut penser.
Alors vous avez raison, je vous remercie infiniment d'évoquer effectivement Philippe Maxence, qui est le directeur de L'Homme Nouveau, qui donc a une activité à la fois journalistique, donc papier, internet, par une chaîne YouTube et sa fameuse émission Le Club des Hommes en Noir, où il y avait le regretté Daniel Amiche. On ne peut qu'évidemment parler de lui, qui a donc une maison d'édition, les éditions de L'Homme Nouveau, mais il dirige également les éditions Aura Decima, dans lequel il y a beaucoup de comment dire, à la fois de rééditions d'ouvrages classiques et de publications d'ouvrages nouveaux. Je pense à la collection dirigée par le professeur Joël Audebert. Philippe Maxence et son équipe, je pense à Madame Blandine Fabre, qui est d'une efficacité incroyable et d'une gentillesse, d'une extrême gentillesse. Philippe Maxence doit être salué comme étant quelqu'un d'extrêmement courageux. Extrêmement courageux à la fois par, je dirais, le fait qu'il essaye d'assurer une unité parmi des gens qui, parfois, eh bien, peuvent être amenés à se disputer, hein. Je n'évoquerai pas un sujet récent, mais enfin, en tout cas, lui, il essaye d'assurer l'unité là où il y a des disputes. Et il n'hésite pas à publier des ouvrages dont ils pensent qu'ils peuvent avoir sur le long terme un certain impact. Ces deux colères fracassées dans l'ignorance, c'est Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine. Là, je cite deux de mes livres qu'il a publiés. Je voudrais vraiment
Cher
l'en
Guillaume,
remercier profondément.
je vous remercie moi-même. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Je remercie Claudia à la technique et vous, chers amis auditeurs, et n'hésitez jamais à nous envoyer vos questions.
Vous venez d'entendre Lumière de l'Espérance, dirigée par Olivier Figueras, émission préenregistrée le 3 juillet 2026, diffusée sur Radio Courtoisie, dimanche 2 août, de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.